Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Radio Crésus. Nous avons à l'antenne, en ligne, Monsieur Georges Kraus, hein, qui a publié deux ouvrages, tout récemment Les Gueux de la République et précédemment Liberté sous caution chez In Octavo. Monsieur Kraus, est-ce que vous m'entendez bien ? Voilà, ceci, on va recommencer. Monsieur Kraus ?
Allô ?
Oui, Monsieur Kraus.
Oui, excusez-moi, je vous entendais faiblement, monsieur.
D'accord, bah, je vais essayer de parler bien fort. Nous sommes en plateau avec Régis Alter et Monsieur Thierry Edmond, et nous avons quelques questions à vous poser concernant les deux ouvrages que vous avez publiés. Alors, j'ai cru comprendre que vous avez rencontré des soucis au tout début des années 90, et vous avez souhaité témoigner une première fois avec Liberté sous caution, donc en 2007. Qu'est-ce qui vous a incité, effectivement, à rédiger dans le détail toutes les situations que vous avez vécues pendant cette période très difficile pour vous?
Ce que j'ai voulu faire, en quelque sorte, bon, c'est un récit un peu kafkaïen, une main courante pour raconter, mais alors sans aucun masque. Au début, le premier ouvrage avec un peu de pudeur, mais le second, disons, révolté devant l'inaction, l'immobilisme et notre système obsolète, incapable de résoudre les problèmes des exclus en France, et je dirais même plus particulièrement des exclus hors normes, c'est-à-dire des gens éventuellement qui sont imposables. C'est ça qui est dramatique, parce que finalement, j'ai vu, puisque j'ai dû saisir à 8 reprises la commission de surendettement lorsque ma situation s'est aggravée, j'ai dû également saisir 8 juges, donc ça sur une période de 11 ans, et j'ai trouvé qu'en fait on avait une justice qui était complexe, réservé aux non-initiés, avec, disons, des arcanes bon, incompréhensibles pour le profane. Hein. En fait, c'est pour ça que je voulais, dans ces livres, expliquer réellement la vérité, comment ça se passe réellement, pour un exclu atypique, lorsqu'il frappe à la porte en disant « pouvez-vous m'aider parce que ma situation s'aggrave ?» Donc, redéposer un dossier devant la commission de surendettement. La commission analyse votre dossier, mais a déjà des idées préconçues en vous voyant arriver avec une retraite malgré tout décente, en apparence, et l'on me juge uniquement sur ses apparences. Alors je pense que je ne suis pas le seul dans ce pays, et moi j'ai voulu le crier pour en même temps aider les autres, et peut-être aussi soutenir également l'association Crésus, Jean-Louis Kiel notamment, qui a suivi mon dossier et a vu l'absurdité de ce combat que j'ai pu mener. Donc là j'ai 72 ans, je suis bien sûr avec mon épouse bon, retraitée depuis maintenant 12 années, mais ça n'a pas été un havre de paix. Un plan de surendettement, il est normalement là pour un peu tranquilliser les gens le temps que le plan se fasse, dans la mesure où on peut le tenir, mais le système est fait tel que on oublie de dire, en fait, on oublie de prendre en considération que vous ne percevez en réalité que le RMI, et souvent beaucoup moins, et on ne figure pas sur la liste des RMistes. Et c'est ça qui est dramatique, et c'est ça aussi que je dis dans mon second livre. Voilà une nouvelle forme de discrimination qui, elle, effectivement, est beaucoup plus sournoise que les autres, parce que ça n'est pas la couleur de peau, ça n'est pas la religion, ça n'est pas... vous voyez ce que je veux dire,
ouais,
disons que moi, en fait, on me juge sur la retraite apparente qui me donne, disons... Qui me permet de payer un impôt, et je devrais me glorifier d'être un Français qui paie un impôt, mais je dois privilégier mes impôts à ma nourriture, à ma subsistance, à mon habillement. Je dois supporter les franchises médicales, je n'ai aucune aide, parce que je ne suis pas identifié comme un RMiste réel qui figure sur la liste des RMistes. Et donc, dans ce deuxième ouvrage, j'invoque dans plusieurs pages de ce livre, notamment la discrimination dont finalement on est victime et qui est en fait beaucoup plus atroce puisqu'elle est elle est sournoise et elle n'est pas médiatique et elle n'en est pas moins une injure à la dignité humaine.
Vous évoquiez un cri à l'instant, ce cri donc prend la forme de ces deux ouvrages. Si on le consulte attentivement, cet ouvrage prend la forme d'un journal, une forme de journal presque intime avec des dates très précises. Je voudrais vous interroger sur les destinataires. Je suppose qu'il y a forcément le lecteur qui sera intéressé par le sujet, mais il y a aussi, j'imagine, vous parliez d'un combat, la volonté d'alerter les politiques, hein, et vous militez notamment par rapport à la création de ce fichier positif qui est appuyé par Radio Crésus. Est-ce que vous pouvez me dire un mot de ce combat-là que vous menez à votre manière, sous une forme littéraire?
Je reconnais de toute façon le bien fondé et finalement, donc, puisque je décris le surendettement comme une pandémie, pour faire un petit comparatif à cette fameuse grippe H1N1, où on avait bien sûr fait de la prévoyance et un stock de piqûres, mais donc dans une pandémie, il faut faire de la prévoyance, c'est certain, pour ne pas attraper la grippe, en quelque sorte, ne pas entrer dans le piège. Et là, le fichier positif et la prévoyance indiscutable, indispensable, en dehors du fait qu'il faudrait former les gens beaucoup plus précocement pour faire de la prévoyance, faire un budget qui tienne la route, ne plus faire confiance non plus à son employeur qui peut vous virer comme un malpropre en vous mutant et en vous coupant la paye en deux, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, mais bon, ça arrive dans tous les corps de métier, dans toutes les activités. On délocalise et ensuite les gens sont victimes d'un accident. Bon, et un accident de la vie, c'est l'éclatement de la famille, l'explosion, bon, que ça soit le chômage, la maladie, la chute imprévisible de revenus, donc vous vous retrouvez gros gens comme devant. Qu'est-ce qui vous reste finalement? Eh bien, c'est soit bien sûr, là j'ai déclaré ça dans mon premier bouquin, je l'ai écrit, les erreurs que j'ai commises, c'est de saisir immédiatement la commission le plus précocement possible. C'est aussi ne pas répondre aux offres alléchantes. Mais généralement, quand on est surendetté, accidenté de la vie et non pas compulsif, on ne l'a pas fait exprès, on est déjà victime, et ensuite on va vous rendre encore un peu plus victime, vous devrez constamment culpabiliser. Ce que je dis également dans les bouquins, devant la commission, on vous met complètement à poil, incapable de cacher sa nudité. Donc vous avez, vous subissez les harcèlements, vous avez subi cet accident, et vous allez avoir un plan de surendettement inhumain qu'il faudra essayer de tenir sur une longue période. Et on vous dit bien sûr, monsieur, si votre situation s'aggrave, bon, on a des lois en France, vous pouvez redéposer votre dossier. Mais le problème, c'est que c'est la commission qui va décider de la recevabilité de votre dossier. Et c'est pour ça que moi, je suis passé à 8 reprises devant une commission où j'ai gagné 3 fois contre la Banque de France et où la justice s'est trompée en prenant mon premier plan comme un moratoire, alors que c'était un plan conventionnel, que c'était écrit dessus, qu'on m'a piqué ma maison, on m'a pris mon indemnité de licenciement, qui devait me servir finalement de trésor de guerre si j'avais un incident quelconque, si ma situation s'aggravait. Parce qu'une indemnité de licenciement, elle ne vous est pas versée comme ça.
Monsieur Krauss. Je comprends bien. Et d'ailleurs, sur votre page de couverture de votre livre « L'aiguille de la République », vous mettez la liberté, l'égalité, on a un drapeau français, et vous remplacez la fraternité par la précarité.
Oui. Ben donc, parce que la précarité, de toute façon, on tombe dans la précarité dès l'instant où, lorsque vous passez au tourniquet, lorsque vous passez devant une commission, moi je vous dis, on me prend ma maison. On me prend mon indemnité de licenciement et il y a pas assez néanmoins pour apurer les dettes. Donc on me met un plan. On me met un plan, mais ce plan, il me laisse que 600 € pour vivre par mois à deux. Donc si ça, c'est pas de la précarité, c'est d'autant plus de la précarité encore plus vicieuse, c'est que on ne peut plus accéder, on n'a pas droit aux aides. On n'a même pas droit au resto du cœur, parce qu'on va me demander mon avis d'imposition. Et l'avis d'imposition est rédhibitoire.
Il est clair qu'actuellement, les commissions établissent des plans où, effectivement, les ménages sont asphyxiés d'une certaine manière, ne pouvant même pas épargner, je dirais, même une épargne de précaution. On devrait intégrer dans un plan de surendettement une épargne de précaution pour permettre de faire face aux aléas de la vie, parce que la vie continue.
Oui.
Il y a des choses qui n'apparaissent pas. Et c'est vrai, et vous avez raison, quelque part, le surendettement peut tuer. Hein, on le sait pertinemment. Vous êtes un homme fort qui a souhaité exprimer toute son expérience, toute son histoire dans des ouvrages. Mais il y a d'autres personnes qui ne résistent pas à cette pression-là et qui, quand je dis que le surendettement tue, passe à l'acte. Donc c'est la mort brutale.
Oui. Mais pardonnez-moi de vous couper, mais nous, dans le début de mon histoire, je raconte qu'également, nous, on est passé par là.
Oui.
Parce que moi, j'ai fait ma tentative, j'ai échoué heureusement. Mon épouse aussi. Et puis finalement, on s'est dit, la vie est quand même malgré tout, elle est belle, et il faut pour sa famille. Et la nôtre, au contraire, n'a pas explosé, mais elle est restée de plus en plus unie. Et je termine mon deuxième bouquin par, je pense, un épilogue qui est assez plein d'espoir. En fait, j'ai découvert autour de moi quand même des gens qui sont là prêts à se battre, mais on n'est pas assez nombreux pour ça. Et en fait, quand on prend la maison de quelqu'un, qu'est-ce qui lui reste comme option? C'est de il faut bien qu'il se loge. Il faut bien qu'il cherche un logement. Or, moi, j'ai été obligé de déménager à 9 reprises en l'espace de 11 années. Et à chaque fois, ça a été la difficulté incroyable, puisque finalement, j'ai pas droit à l'aide au logement, j'ai pas droit aux logements sociaux. Et en plus, je n'ai droit qu'accéder à des logements privés, locataires, non, aux bailleurs privés, du locatif qui est beaucoup plus élevé. Et c'est ça qui est aberrant. Et là, maintenant, je paie un loyer qui est plus élevé que mon crédit maison que j'ai soldé à la vente de ma maison.
Oui.
Et ce crédit serait d'ailleurs terminé. Donc on ne résout pas le problème en faisant vendre. Au contraire, il faut essayer de préserver l'habitation de la personne à qui ça arrive. Je n'aurais pas eu à déménager à 9 reprises.
Vous avez raison, il y a des incohérences et des pratiques qui vont contre, je dirais, le bon sens. Alors aujourd'hui concernant le logement par exemple, on sait que la loi Lagarde, qu'il y a des nouvelles dispositions qui rappellent que le fait d'avoir une résidence principale ne permet pas de rejeter d'emblée, par exemple, le dossier pour irrecevabilité.
Oui.
Que d'autre part, avant de proposer la vente de la maison, il faut nuancer les choses et la commission doit vérifier si effectivement la vente de la maison ne va pas mettre dans une situation plus précaire, finalement, la famille.
Tout à fait.
Donc il y a des choses qui ont été entendues. Maintenant, il faut voir dans la pratique ce que ça va donner. Et c'est là toute la question.
C'est que moi, j'ai vraiment épluché et vécu tout cela, de toute façon, où je pense, et l'avocat qui m'a défendu ne comprend pas, parce qu'il considère que dans ce dossier-là, il y a eu plein de j'ai eu plein de cas qui, d'aléas et survenu, et les aléas, de toute façon, Martin Hirsch le disait, on ne dispose pour survivre que du RMI sans être répertorié sur la liste officielle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Oui.
Donc on est bien à la merci du moindre aléa. Et tenez-vous bien, monsieur, la commission qui avait étudié mon dossier à l'origine a dit qu'après la vente des biens de monsieur et madame Cross, retraités, leur situation n'a aucune chance d'évoluer. Donc ça veut bien dire de manière implicite que c'est l'inverse qui va se produire. Et c'est inévitable, dès l'instant où on vous a piqué toute votre épargne, vous n'avez plus rien, on vous a pris la maison, vous payez plus cher de loyer, vous êtes obligé de supporter des aléas. Et là, j'ai des jugements qui ont subi la commission de surendettement et d'autres qui ne l'ont pas suivi en disant « mais les aléas qu'invoque M. Cross, les déménagements, les frais de justice, la maladie, etc. doivent être pris en compte ». Et le même juge dit l'inverse dans le jugement suivant en disant qu'il ne prend pas ses aléas parce que ce sont des dettes. Donc ça aussi, c'est anormal. C'est pas des dettes, puisque j'ai payé tous ces frais en le prenant sur mon reste à vivre. Et c'est pour ça que je redéposais des dossiers, parce qu'il me restait, il m'est resté parfois moins de 200 euros par mois pour vivre. Donc on nous met en danger, et on est obligé, à ce moment-là, qu'est-ce qui nous reste comme solution, puisque les portes des associations se ferment, personne ne veut étudier le dossier. On dit, monsieur, avec ce que vous gagnez, mais on ne vous l'écrit pas. Donc, c'est bien un jugement sur les apparences.
Pas toutes les portes.
On vous dit, si vous ne pouvez pas prendre une voiture, marcher à pied, alors qu'on était à 18 km des commerces.
Oui.
Votre petit chien, mettez-le à la fourrière. Oui. Mettez-le
monsieur Krauss, j'entends bien. Et je voulais juste préciser que pas toutes les portes se ferment. Hein, puisque Crésus, on est effectivement à l'écoute des personnes qui ont vécu une situation telle que vous l'avez vécue. Quoique, je dirais que votre situation est quand même exemplaire. Et en ce sens, en lisant vos ouvrages, on s'en rend bien compte. Et je crois que il faut vraiment prendre conscience de l'impact que peut avoir effectivement le surendettement sur nos vies, hein, en tant que concitoyens, et de voir qu'effectivement ça a des effets dévastateurs.
Tout à fait. Et ne pas nous assister, ne pas nous aider, c'est une non-assistance à personne en danger. Et j'ai écrit ça à Monsieur le Président de la République, j'ai écrit à tous les plus hautes instances politiques, et j'ai même eu l'audace et le courage de mettre certaines lettres, quand on m'a répondu, dans mon bouquin,
justement,
dans mon deuxième ouvrage, pour montrer l'aberration, la stupidité des réponses, telles que, par exemple, attentive à votre situation, j'écris au préfet du Gard, alors qu'à l'époque, j'habitais dans le Lot-et-Garonne. Donc, heureusement que cette personne était attentive. C'était la secrétaire du Premier ministre. Bon, donc, voyez, voilà ce genre de choses. Donc, c'est facile de botter en touche de cette façon-là, mais on traite pas le problème. Donc, ce que je veux, j'ai fait dans le dernier bouquin un chapitre destiné aux élus, et également, pour montrer que je ne pleurniche pas, mais que j'essaie de positiver, je donne sans être prétentieux, hein, je donne des suggestions de réforme.
Justement, Monsieur Krauss.
Parce que moi, j'ai mis les mains dans le cambouis, je ne suis pas un expert du gouvernement, mais je suis une victime qui a survécu à la pandémie.
D'accord. Monsieur Krauss, tout cela est contenu de manière très détaillée dans vos ouvrages. On va rappeler d'ailleurs les titres. Il s'agit de l'ouvrage de 2007, Liberté sous caution, mais également Les gueux de la République, qui viennent de sortir chez Inoctavo Éditions. Tout cela est précisé. Votre cri est formulé de manière magistrale en quelques 200 pages à chaque fois. Et nous invitons naturellement nos auditeurs à les lire attentivement. Nous vous remercions pour votre témoignage. On espère effectivement vous avoir à l'antenne très prochainement pour poursuivre cette discussion qui est absolument passionnante et qui mériterait d'ailleurs d'être poursuivie longuement.
D'avoir eu la gentillesse de me permettre de crier ce désespoir, bon, pour les autres, parce qu'en fait, ces bouquins, je les dédie aussi à tous les exclus qui ne sont pas capables de se défendre ou qui n'ont plus le courage. Alors je leur dis, résistez, lisez ces bouquins, parce que ça vous donnera un peu le moral en même temps, et je le conserve, et je me dis, bon, enfin, dans 2 mois, théoriquement, après avoir fait 3 années de plus que mon plan initial qui devait durer 8 ans, je termine ma 11e année, et eh bien, je trouve qu'on m'a pas fait de cadeau, et heureusement que j'ai eu Crésus derrière moi, parce que on m'a encouragé au maximum, et Monsieur Kiel a fait ce qu'il a pu, et je suis à ses côtés aussi, et je dis merci à tous pour tous ceux qui m'ont aidé, et merci à votre radio aussi.
Et merci à vous, Monsieur Krauss, à très bientôt, bonne journée,
merci.
À vous, au revoir.
Au revoir.
Crésus. La radio qui vous aide.